Bonsoir à tous, que vous soyez à Montréal, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Québec, vous êtes salués. Bienvenue à cette tribune de Parlons-nous. Ce soir, on va parler de générosité. Ouais, on va vous poser la question, pensez-vous être aussi généreux envers les moins bien nantis cette année? On est à une semaine de la grande guignolée des médias. Ça débute le 2 décembre prochain. Et quelle sera votre cause cette année? À qui allez-vous donner? On sait qu'en période de pandémie, ça a été difficile dans les derniers mois. Je pense aux banques alimentaires, aux organismes communautaires qui viennent en aide aux gens qui ont moins de sous. C'est pas évident. Il y a plus d'un million de personnes en situation de pauvreté au Québec. C'est pas rien. Maxime Lachance, tu faisais le parallèle. Toi, tu me parlais tantôt de la ville de Seattle. Bon, c'est gros. Ça ressemble à Montréal un peu.
On ça peut se dire compare.
Ça se compare.
Au niveau population, là, c'est sensiblement pareil. Mais Seattle, c'est une ville où il y a beaucoup d'argent. C'est une ville où il y a de grandes compagnies. On peut penser Amazon, Microsoft. C'est la ville de Boeing, c'est la ville de Starbucks. Donc, il y a de l'argent. Et qui dit salaire élevé, dit loyer.
Habitation, ben oui.
Très élevé. Le prix des habitations, autant location qu'achat, c'est complètement fou. Il y a 45 000 personnes à Seattle où 50 % du budget va, même plus que 50 % du budget va pour le loyer. Imagine, la moitié de ce que tu gagnes.
Tu n'as pas mangé, là, encore.
Tu n'as pas mangé là-dedans. Puis là, on sait que depuis la pandémie, justement, l'inflation, c'est dans le tapis. Donc, ces gens-là, 45 000 personnes, c'est des gens qui sont à ça, de se retrouver dans la rue. Et à Seattle, il y a à peu près 3 000 sans-abri. On dit que c'est à peu près 20 % qui sont sans-abri, qui n'ont pas de domicile fixe, mais qui travaillent.
Donc, ces gens-là font leur journée de travail, puis le soir, on même pas de chez eux.
C'est complètement
sont obligés de vivre dans la rue.
Ça, c'est 600 personnes.
Ça n'a pas de sens.
C'est complètement fou. Et ben, je te parle de Seattle parce qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs pour peut-être trouver des moyens pour qu'ici, on n'arrive pas à ça.
Non, c'est ça.
Et justement, le visage de la pauvreté, je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il change de plus en plus.
Parce qu'on
a toujours l'image de la personne qui est seule, qui est, pour ma part, là, qui est seul, qui est dans la rue, mais la pauvreté a beaucoup de visages.
Il y a beaucoup de visages. On pense aux familles monoparentales.
Exact.
Ça aussi, c'est pas évident. Là. Les gens ont de la difficulté à travailler au salaire minimum. Puis si on arrive, on n'a pas le choix d'avoir recours aux banques alimentaires ou des trucs comme ça.
On parlait de ça tantôt. On calculait le prix d'un lunch. Exemple, tu vas te trouver un lunch, tu vas te chercher un lunch dans un restaurant, restauration rapide.
Ben, si ton ça trio, coûte, là, il va te coûter.
Ben, si tu coûtes 15 $ là, puis que tu travailles à 15 $ de l'heure. C'est une heure de travail pour manger, pour te payer ce lunch-là.
Oui, puis on sait que là, après les fêtes, là, on l'a dit, on parlait de la boîte de Cheerios qui va augmenter, mais c'est pas juste ça. Au niveau de la nourriture, c'est complètement fou. D'ailleurs, notre première invitée ce soir, alors je vais juste, donner les numéros de téléphone, évidemment.
Ce qu'on vous demande ce soir, pensez-vous être aussi généreux envers les moins bien nantis cette année? À qui vous allez donner? C'est quoi, vous, votre cause? Réservez votre circuit, vous êtes à Montréal, c'est le 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1-866-790-9850. Texto 98985.
Merci, Maxime. Oui, c'est ça. Notre premier invité s'appelle Richard Dano. Il est directeur général chez Moisson Montréal. Et on sait que depuis, ces gens-là sont très populaires, travaillent très fort. Monsieur Dano, est-ce que vous diriez que depuis les 20 derniers mois, vraiment, la demande a explosé chez Moisson Montréal?
Ah, clairement. Clairement, pendant la première année de pandémie, la demande a augmenté de plus de 40 %. Et... c'est quand même pas rien. Là, dans la première année de pandémie, à Moisson Montréal, là, nous avons redonné aux organismes de quartier qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Oui. Donc, la pauvreté, c'est ce qu'on voit dans les quartiers. On leur a donné 36 millions de dollars de nourriture de plus que l'année d'avant. Fait que là, c'était au-delà de 40 % d'augmentation de la première année de la pandémie. Là, ça s'est résorbé un petit peu, mais on roule quand même à entre 20 ou 25 % de plus que l'année pré-pandémique. Fait que nonobstant le fait que l'économie soit repartie un petit peu, on le voit, là, les hôtels ont réouvert, les restaurants ont réouvert, les salles de danse et tout ça, mais il y a encore plein de monde qui sont encore très impactés par la pandémie. Comme je vous dis, on est sur une cadence là, à 20-25 % de plus qu'en 2019-2020. Fait qu'on n'est pas sorti du trouble encore, disons ça comme ça. Mais votre collègue le disait tantôt, là, le spectre de l'inflation là, est devant nous. Puis ça pourrait faire basculer plein de monde en pauvreté. Parce que il y a beaucoup de gens qui vivent d'une paye à l'autre. D'une paye à l'autre. Puis là, ça n'en prend pas gros pour que les gens basculent. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus les moyens de payer 3 repas par jour. Fait que, évidemment, il faudrait bien malin pour savoir quel sera le taux réel d'inflation l'année prochaine, mais quand on vous écoute, les médias, là, les nouvelles que vous portez sur l'inflation ne sont pas nécessairement très bonnes.
Non,
fait
c'est
qu'on risque de, on risque d'avoir des mois difficiles devant nous autres, puis on risque d'avoir besoin de gens pour nous supporter. À votre question, là, c'est est-ce que les gens seront généreux? Là, moi, j'aimerais d'emblée dire que moi, je suis convaincu que les gens vont être généreux parce que pendant la pandémie, la société québécoise a été fantastique. Moi, je pense que socialement, là, on a montré le meilleur de ce qu'on a à montrer. Pour que chez nous seulement, moi, sur Montréal, là, puis là, il y a des organismes communautaires, il y en a des dizaines de milliers. Il y en a 85 000, en fait, des organismes à but non lucratif, des organismes de charité au Canada, là. Puis, on a tous eu un grand, grand support de nos communautés respectives. La pandémie nous a donné une opportunité pour se ramasser ensemble, pour se serrer les coudes, puis pour faire une différence. Puis seulement qu'à Moisson-Montréal, qu'on soit capable de redonner 36 millions de dollars de nourriture de plus aux organismes, ben c'est bien parce que les gens nous ont supportés, parce que là, ça a pris de l'argent pour payer les employés, ça a pris de l'argent pour payer les camions, pour payer l'électricité, l'essence, puis toutes ces choses-là. Puis on a eu des bénévoles, les bénévoles ne nous ont pas abandonnés. Fait que moi, je suis très confiant qu'on va le faire, mais puis le message, nous, qu'on essaie de passer, c'est il faut rester mobilisé parce qu'on n'est pas sorti de la pandémie encore. On a des bonnes nouvelles devant nous autres, mais il y a encore 20-25% plus de monde qui sont dans le comptoir alimentaire aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ans.
Mais M. Dano, si les gens veulent vous aider, donc c'est quoi la meilleure chose? Quels sont les plus grands besoins là, de Moisson-Montréal?
Les banques alimentaires, là, les comptoirs alimentaires, là, ils ont besoin d'argent, de temps, bénévolat, puis de denrées. Hein, ça, c'est pas vraiment compliqué, fait que c'est facile de nous aider. Les gens peuvent aller. Puis les organismes communautaires qui déploient le service, parce que c'est une grande chaîne d'entraide alimentaire, tout ça, là. Nous, notre mission, c'est de ramasser la nourriture pour tout le réseau à Montréal, puis pour une partie du Québec, là. Fait qu'on fait ça, on a ramassé 117 millions de dollars de nourriture l'année passée. La nourriture, d'ailleurs, qui aurait été jetée, qui serait allée au site d'enfouissement terrestre si on ne l'avait pas capté suffisamment vite. Là. Fait que je vous parlerai pas trop d'écologie ce soir, même si c'est bien à la mode. Mais fait que nous, tous les organismes communautaires, on a besoin de monde pour opérer. On a besoin de bénévoles. Puis dans les quartiers, il y a plusieurs petits organismes de quartier, des comptoirs alimentaires notamment, des papotes, puis les cuisines collectives qui peinent à trouver les bénévoles qu'ils ont besoin pour opérer. Si vous voulez faire une différence, là, moi, j'aurais voulu dire ça à vos auditeurs, si vous voulez faire une différence, puis si vous voulez vivre de quoi qui est vraiment gratifiant, allez donner un coup de main à des organismes communautaires près de chez vous. Un, vous allez probablement voir certains de vos voisins, à votre grande surprise, ça peut peut-être aider des fois à faire tomber certains tabous. Là, on pense que les pauvres, c'est les autres, là. Mais les gens qui ont besoin d'un coup de main dans la vie, là, c'est n'importe qui, là, c'est notre famille, c'est nos parents. Tantôt, vous parliez du visage de la faim ou du visage de la pauvreté. Là, s'il fut un temps où les gens qui allaient dans les comptoirs alimentaires, c'était des gens qui étaient sur l'assistance sociale, par exemple. Là. Mm-hmm. Ben, c'est de moins en moins vrai. Évidemment, ils représentent encore un groupe important. Mais on voit de plus en plus de familles monoparentales, vous le disiez tantôt. Mais on voit de plus en plus de personnes âgées qui ont des revenus de retraite insuffisants.
Ben, c'est ça.
Puis là, ces gens-là, là, ils sont aigris souvent. Que moi, j'en ai croisé plusieurs, là. Ça fait quelques années. Les gens, ils sont très aigris parce qu'ils disent, moi, j'ai été autonome toute ma vie. J'ai pas jamais eu besoin de personne pour m'arranger. Puis j'ai élevé ma famille dans la dignité, dans l'honneur. C'est pas un projet de vie, là, d'aller au comptoir alimentaire pour chercher de la bouffe, là.
Non, non. Puis ces gens-là qui ont travaillé toute leur vie, puis là, ils arrivent à leur retraite, puis ils se disent, c'est pas vrai que ça va se terminer comme ça, là.
Ah, c'est d'une tristesse consommée. Puis le réseau communautaire est là, puis la société supporte son réseau communautaire, puis il faut que les gens demeurent mobilisés. Dans le temps des fêtes, ça nous pince tout au cœur un petit peu parce que c'est culturel, hein? Ça, c'est chez nous, là. On est comme ça dans le temps des fêtes. On pense à notre famille, on pense à ceux qu'on aime, on pense à se réunir ensemble. Ceux qui sont dans la période de la vie qui est plus difficile, si on peut leur donner un coup de main, ça fait une grande différence. Puis, si vous me donnez une seconde, je vais aussi vous dire que le segment de clientèle, si je pouvais dire ça comme ça, le groupe socio-démographique qui est en plus grande croissance chez Moisson-Montréal, dans les organismes communautaires, dans les 300 organismes communautaires à qui Moisson-Montréal donne la nourriture, là,
oui.
C'est les personnes qui ont des revenus d'emploi.
Ah
des
oui.
fois, il y a des gens qui appellent ça les travailleurs pauvres. Là, moi, j'aime pas le même terme, mais c'est des gens qui, comme vous et moi, sont occupés à temps plein, qui travaillent, qui sont autonomes, sont actifs, ils contribuent à la société, mais ils n'en ont pas assez pour payer le logement, ils n'en ont pas assez pour payer tout ce qu'il y a à payer. Puis là, les gens, là, semaine 3 du mois, semaine 4 du mois, sont obligés de se rabattre sur le réseau communautaire pour aller chercher un repas ou aller chercher une boîte de bouffe pour faire quelques repas pour eux autres ou pour la famille. Ce segment-là, chez les organismes, les 300 organismes qui sont desservis par Mosson Montréal, a augmenté de plus que 25 % de cette année par rapport à l'année d'avant.
Mais M. Dano, ce que vous dites, c'est incroyable parce que on se dit déjà travailler toute la semaine, bon, c'est pas évident. Ces gens-là ont des familles, ils ont des casse-têtes. Puis là, en plus de ça, leur principal casse-tête, c'est de savoir s'ils vont être capables de manger puis de nourrir leurs enfants. Là.
Ah, c'est ça. Puis là, c'est d'une, je veux dire, c'est parce que c'est pas de bon augure, là. Puis avec le spectre de l'inflation qui plane devant nous. Ce segment de population-là, ou de clientèle, je ne sais pas comment le dire, mais de bénéficiaires qui vont dans les comptoirs alimentaires, ils risquent de croître. Puis là, on ne travaille pas sur le bon bord. Fait que c'est important qu'on demeure mobilisé, puis c'est important qu'on continue à supporter le réseau, parce que ça fait une grande différence. Il y a un grand abonnement. On voit beaucoup de bénévoles. Là, ils parlent, c'est des milliers de bénévoles chez Mosson Montréal, c'est une base annuelle. Puis je vous dis, quand on parle aux gens après la journée, évidemment, ils sont fatigués parce qu'ils ont passé la journée debout, puis ils ont passé la journée à trier de la nourriture. Là, fait que surtout quand on n'est pas habitué d'être debout, bien, être actif toute la journée, de passer 6 heures debout, là, les gens, là, ils sont contents de s'en aller après. Mais ils ont tous un sourire, ils sont tous rayonnants.
Parce qu'il y a une immense différence.
Ben oui. Exactement. Puis il y a un immense bonheur à donner. Il y a de quoi de très riche, là. On peut donner par charité, là, pour aider les autres. Hein? Puis pour peut-être se déculpabiliser un petit peu. Mais on peut donner aussi pour le bonheur de donner. Parce que c'est extrêmement gratifiant, puis ça fait le fun. Puis là, le truc, c'est de donner à des organismes que, tu sais, comme donateur, le truc, c'est de donner à des organismes auxquels on a confiance. Parce qu'on sait que notre temps ou notre argent ou nos denrées
vont
être
bonne place. Oui, non, c'est ça. Monsieur Dano,
ça va faire une différence.
Si les gens veulent communiquer avec vous, par exemple, on peut vous communiquer par le site Internet. Même chose si on veut faire des dons en argent, c'est comme ça que ça fonctionne également?
Oui, moissonmontréal.org. Puis c'est pareil pour mes collègues des autres Moissons au Québec. Là. Il y a une Moisson Mauricie, Centre du Québec, à Trois-Rivières. Il y a une Moisson au Québec. Il y en a 19 des Moissons un petit peu partout. Puis, vous savez, il y a de la pauvreté à Montréal, mais il y en a en région aussi. Nicolette, puis il y en a un peu partout aussi. Là. Fait que, localement, on peut faire une grande différence. On peut faire en sorte que notre communauté continue de se ramasser puis de se tenir. Les gens de la santé publique, là, les gens qui étudient puis qui analysent les choses disent que habituellement la pauvreté ou la faim, c'est transitoire. Hein. Les gens vivent des périodes dans leur vie qui sont pas nécessairement longues, où est-ce qu'ils sont défavorisés, ils sont dans le trouble. Ils n'ont pas faim toute leur vie.
Non.
Ils ont faim pendant une période de leur vie où est-ce que il y en a un des deux qui a perdu sa job, où il est arrivé une bad luck, où il est arrivé un feu puis il n'y avait pas d'assurance, puis tous les malheurs que vous pouvez imaginer. Pendant cette courte période de la vie-là où nos confrères, nos concitoyens sont dans le trouble, si on peut les aider, là, imaginez-le, on change leur vie.
Vous avez raison. Merci beaucoup de votre temps ce soir. Merci, M. Dano. Puis je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur général chez Moisson Montréal. Vous prenez des bénévoles. Bref, si les gens ont envie d'aller vous aider, d'aller vous donner un coup de main également avec des denrées. Un gros merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.
On va s'arrêter un instant à 19h18 et évidemment, on va prendre vos appels. Je vous pose la question. Pensez-vous être aussi généreux envers les moins bien nantis cette année? Je pense à Valérie qui nous attend. Elle sera là avec nous du côté du retour de la pause. Évidemment, on a un autre invité aussi, Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, qui vient en aide à un paquet d'organismes. Et ce soir, on vous pose la question, pensez-vous être aussi généreux envers les moins bien nantis cette année? On sait qu'on est dans la période de Noël. La guignolée s'amorce la semaine prochaine et c'est le moment de l'année où souvent on souhaite que tous les Québécois puissent avoir quelque chose à manger le soir de Noël. Donc, on est davantage généreux dans cette période de l'année. Donc, je vous pose la question et je vais poser la question tout de suite à Valérie qui est au bout du fil. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir.
De votre côté, est-ce que vous pensez être aussi généreuse cette année envers les gens qui en ont moins que vous?
Je vais être franche avec toi, oui. Puis j'ai sensibilisé, en fait, mes filles de 5 et 6 ans. On est allés en fin de semaine à l'épicerie. Ils ont fait chacun leur petit panier, là, mis du savon à linge, brosse à dents, des pâtes, tout ce qui est non périssable pour apporter à la guignolée de leur école.
Ah, puis comment est-ce qu'ils ont trouvé ça, l'expérience de choisir aussi, de choisir pour d'autres familles qui n'en ont pas?
Ben honnêtement, ils ont trouvé ça le fun parce que justement, ils comprenaient pas. Puis je leur ai expliqué que ben maman elle a déjà fait affaire avec ça avant qu'ils soient là.
Okay.
Maman elle a déjà eu bénéfice de tous ces denrées-là là, avec Moisson Rive-Sud puis l'organisme de ma ville. Fait que je leur ai expliqué que des fois, on a moins de sous parce qu'ils sont sensibilisés aux sous. Eux autres, ils ont chacun leur portefeuille. Fait que quand ils veulent dépenser, ils savent qu'il faut qu'ils sortent les sous. Fait qu'ils savent c'est quoi la valeur des choses déjà, parce que je pensais que c'était important. Puis oui, cette année, malgré tout ce qu'on a vécu cet hiver, séparation, rendu monoparental, moi aussi, on l'a fait pareil.
Ben bravo.
Et on va faire pareil avec les jouets. Les jouets, ils sont en train de faire le tri en ce moment même, là, de savoir est-ce qu'on garde cette Barbie-là ou non, ou on la donne à un autre enfant. Fait que c'est pas mal ça.
Ah ben bravo, franchement, parce que je trouve ça beau. Ils sont tout petites encore, vos filles, 5-6 ans, là, puis déjà de commencer à dire, on commence à cet âge-là à les sensibiliser, bravo.
Ben ça va faire en sorte qu'ils vont comprendre un peu plus la réalité, je pense, en grandissant. Là.
Clairement, puis ils vont certainement parler aussi autour d'elles, là, avec les amis.
Ah oui, ils étaient bien contents de m'apporter leur sac d'épicerie. Je pense que s'ils ne l'ont pas dit à toutes les éducatrices...
Ben, merci beaucoup de votre appel, Valérie.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée. On va jaser avec Francine qui est là. Bonsoir, Francine.
Bonsoir.
Je vous écoute, Francine.
Bon, moi, c'est pour faire suite à Fernande.
Oui, Fernande, qu'on a écouté un peu plus tôt, qui a de la difficulté à arriver à chaque fin de mois, finalement. Là.
Oui. Moi, j'avais envoyé un courriel à M. Legault. Okay. Ça fait longtemps. Au début de l'été, j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai le même, je vis avec le même montant
que Fernand.
Que Fernand.
C'est à peu près quoi, 1 900 $ par mois?
Oui. Oui, c'est ça. Même un peu moins, moi.
OK.
Et puis, là, ce que c'est que je remarque, c'est le panier d'épicerie est beaucoup plus élevé.
Ben oui.
Écoutez-moi bien, 6 $ pour une pomme de salade.
Oui, non, c'est ça. Vous devez faire des choix.
Ben oui, il faut faire des choix, mais il ne faut pas mal manger non plus parce que sinon, c'est notre santé qui en prend un coup. Comprenez-vous?
Ben, je comprends. Vous, Francine, est-ce que vous demandez un panier de Noël?
Non, je ne demande pas de panier de Noël. Mais tout ce que c'est que je demande, c'est que ça soit juste pour nous autres, les vieux.
Ouais.
Moi, j'ai 76 ans. Je suis pris avec une maladie dégénérative. J'habite chez moi.
Mm.
Je veux pas aller en CHLD.
Ouais.
J'aime mieux mourir qu'à d'aller là.
Je comprends.
Et puis, quand je peux, que je vois un mendiant sur la rue, même si j'ai pas beaucoup d'argent, je lui donne pas de l'argent comme tel, mais je lui paye un repas.
C'est beau, vraiment.
Oui.
Francine, je sais pas quoi vous dire. Je vous souhaite bonne chance. Est-ce que vous avez de la famille, des proches qui peuvent vous aider?
Bien, j'ai de la famille, mais non, je demande pas. Je leur demande pas d'argent.
Mais Francine, vous devriez aller chercher un panier de Noël là, cette année, là, vous faire gâter un petit peu. Mm. Pensez-y, parce que...
Parce que je dis tout le temps qu'il n'a des pays que moi.
Je comprends, mais là, c'est votre tour, je pense, là.
Fait que c'est tout ce que c'est que je voulais ajouter pour faire suite à Fernande.
Merci de votre appel, Francine. Je vous souhaite un beau temps des fêtes.
OK. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.
On a Jacques qui est là. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir. Bon, premièrement, juste pour faire suite à la personne qui vient de vous parler, là, Francine, là, je m'adresse à elle. J'ai dit, ne vous gênez pas, madame, d'aller demander un panier de Noël. J'ai entendu ce qu'elle disait.
Ouais.
Ne vous demandez pas, qu'elle se gêne pas, franchement, qu'elle y aille.
Vous avez raison.
Exactement. Moi, comme je disais, je donne pour la Saint-Vincent-de-Paul, puis aussi pour la Maison du Père, c'est à peu près les deux organismes que je donne le plus. Puis, comme je disais aussi à celui que j'ai parlé, faut faire attention aussi les gens qui t'appellent par téléphone.
Mm-hmm.
Comme moi, j'ai déjà reçu un appel par téléphone, exemple, on recueille de l'argent pour les petits déjeuners.
Ah oui, faire attention parce que c'est pas toujours de la bonne sollicitation.
Moi, je leur ai dit, OK, je suis 100% d'accord, mais j'ai dit, moi, par téléphone, je vous connais pas, je vous vois pas. Envoyez-moi de la documentation à la maison pour savoir à qui j'ai affaire. La personne m'a répondu, ah, oh, on fait pas ça. Vous faites pas ça? Ben, je m'excuse, mais je vais passer au prochain.
Non, non, vous faites bien. Jacques, dites-moi, ça vous fait quoi de donner comme ça quand vous me parlez de vos deux causes?
Non, pour la Guignolée, puis pour la Maison du Père, puis la Saint-Vincent-de-Paul, mm-hmm. je trouve que c'est des deux excellentes causes.
Ouais.
Puis je donne tout le temps de l'argent. Puis comme je disais aussi avant la pandémie, moi, pour la Saint-Vincent-de-Paul, j'ai donné de mon temps pendant plusieurs années. Mais je trouvais que c'était pas grand-chose. Je passais à tous les jours quand c'était la Guignolée, la Saint-Vincent-de-Paul, à chaque année pendant 30 ans, j'ai passé dans mon secteur.
C'est bon, ça. Ben bravo, Jacques.
Non, mais je dis pas ça pour me vanter.
Non, non, mais c'est bien de s'impliquer comme ça.
Moi, je trouve que c'est une excellente cause. Puis les gens, comme la semaine prochaine au centre-ville, même si j'ai déjà donné, ben c'est sûr que quand je vois les gens pour la Guignolée des médias, j'ai pas de gêne à donner un montant.
C'est bon.
Parce que je sais où est-ce que l'argent, quand tu donnes à des organismes comme la Saint-Vincent-de-Paul, la Maison du Père, on sait où l'argent atterrit.
Exact. Un gros merci de votre appel, Jacques.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté.
Merci. Il est 19h30.
Bonne soirée
à vous. On va s'arrêter un court instant. Au retour, mon invité Claude Pinard est là, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. Va pouvoir d'ailleurs nous parler de la situation dans le Grand Montréal au niveau de la pauvreté. On dit que quand même, grandir dans la pauvreté, ça augmente le risque d'avoir des difficultés tout au long de sa vie. Donc, restez là. Et la question de la tribune téléphonique ce soir, pensez-vous être aussi généreux envers les moins bien nantis cette année? On sait que la guignolée des médias, ça commence la semaine prochaine et c'est le moment d'année où on est davantage généreux habituellement. Je sais qu'on a parlé à Francine qui a fait beaucoup réagir, notamment sur la messagerie. Francine, j'aimerais ça que vous me rappeliez. 514-790-9850. J'aimerais garder vos coordonnées. Donc, si vous êtes pas loin, là, si vous êtes toujours à l'écoute, rappelez-nous, s'il vous plaît. 514-790-9850. Maxime, tu as des réactions pour
nous? Oui, beaucoup de réactions. Il y a Nathalie qui a été très touchée par ce que Valérie a témoigné avec ses deux enfants tantôt.
Oui, ses deux petites puces à l'épicerie.
Elle dit que ça l'a vraiment touchée. C'est vrai que c'était très, très beau.
En fait, lis exactement ce qu'elle a dit.
Elle a dit « ça m'a fait brailler ».
Bon.
Elle a dit ça comme ça.
C'est ça.
Donc, ça, c'est Nathalie qui nous a écrit. Quelqu'un qui nous dit que lui donne à la guignolée le plus possible dans sa communauté. Il y a Ronnie qui, lui, donne à 3 mamans monoparentales avec 2 enfants chacune.
Wow.
Donc, tout ce qui est épicerie, puis chacun des enfants va avoir un petit cadeau aussi à Noël.
C'est bien, ça.
C'est un super beau geste. Il reste la place sur les circuits. 514-790-9850. Si vous êtes à Montréal, ailleurs au Québec, 1-866-790-9850 et texto 98985.
Merci, Maxime. On va discuter tout de suite avec notre invité Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. Bonsoir, M. Pinard.
Bonsoir, Mme Leboeuf. Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, oui. Content d'être ici.
Bien, je sais que vous avez amorcé votre campagne justement pour ramasser des dons, pour aider, parce que vous, des organismes, vous en avez, j'ai dit un paquet d'organismes, là, il y en a quelques centaines que vous aidez.
350 sur le territoire de Montréal, Laval et la Rive-Sud.
Quels sont les besoins les plus criants, vous diriez? Parce que depuis quelques mois, on a vu qu'avec la pandémie, le visage de la pauvreté a changé.
Oui, et j'écoutais les autres intervenants tantôt, puis le témoignage de Valérie était particulièrement touchant. Puis
ouais.
si je peux faire un parallèle avec une situation qu'on vit cette année, vous avez vu dans les nouvelles l'augmentation du prix des loyers.
Mm-hmm.
Alors, lorsqu'on a une maman monoparentale qui doit signer un bail avec un 150-200 $ d'augmentation, ça veut dire souvent pour cette famille-là une aide alimentaire qui va arriver le 20 du mois au lieu du 28. Ça veut dire aussi que la maman va considérer peut-être changer de quartier pour quitter donc son tissu social et les gens qui l'entourent. Dans le but de pouvoir loger sa famille, ça veut dire que les enfants vont peut-être être déracinés de leur lieu d'école,
mm-hmm.
ce qui va mener un peu naturellement de l'anxiété. Puis en bout de ligne, ben la mère monoparentale là, sera peut-être obligée d'accepter de vivre dans un taudis, dans un logement qui est insalubre. Alors c'est, vous voyez, quand vous parlez de la multiple facette de la pauvreté, si je vous mettais cette maman-là devant vous, vous ne seriez pas en mesure de voir les multiples facteurs qui impactent sa vie et la vie de sa famille.
Non, c'est clair, c'est clair. Puis quand vous dites pauvreté, ça passe aussi par l'éducation, parce que, bon, les jeunes qui décrochent, qui ne retournent pas à l'école, malheureusement, s'ils ne réussissent pas à décrocher un diplôme, bien là, à ce moment-là, c'est le cycle de la pauvreté qui va se poursuivre.
Écoutez, puis je s'entraîne, on fait ça, on assure l'essentiel, on s'assure que, en aide alimentaire, j'écoutais Richard tantôt de Moisson Montréal, là, mm-hmm. et on est, c'est un très gros don pour nous, on leur donne plus de 400 000 $ par année à Moisson Montréal, ce qui leur permet de faire énormément d'aide au niveau des personnes qu'ils aident, mais également au niveau d'autres organismes de centraide de soutien au niveau de la sécurité alimentaire. Mais l'autre aspect ou à l'autre spectre de l'aide qu'on peut donner chez Centraide, c'est ce qu'on appelle, nous, les changements de système. On peut faire en sorte qu'on puisse attaquer aux causes même de la pauvreté ou de l'exclusion sociale. Et vous mentionniez tout à l'heure, tantôt, Mme Belleboeuf, que vous parliez d'éducation. Alors, quel est le premier déterminant de la pauvreté? Ben, c'est justement l'éducation. Mm-hmm. Alors, on a des quartiers à Montréal, puis un peu partout au Québec, qui ont des taux de décrochage assez impressionnants. À Montréal, sur la gare Maisonneuve, on parle de 41% de taux de décrochage. Alors ça, ce sont des garçons et des filles qui ne graduent pas du secondaire 5. Alors lorsqu'on est en mesure de venir en aide à des organismes communautaires qui eux, peuvent intervenir auprès des enfants, auprès des parents aussi, pour assurer la réussite scolaire, bien, peut-être qu'on est en mesure de briser le cycle de la pauvreté.
J'ai envie, M. Pinard, de vous lire un texto qui vient de rentrer de quelqu'un qui était aux études en 2003 pour devenir infirmière. Je me suis retrouvée dans la rue lorsque l'école a décidé de faire les stages de jour. J'ai dû lâcher mon emploi du matin. J'ai été porter les enfants chez leur père. J'ai été vivre au Chaînon. J'ai réussi. Aujourd'hui, je suis infirmière et je donne au-dessus de 100 $ par mois aux itinérants. C'est incroyable.
Au Québec, là, on parle de 1,2 million de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Mm-hmm. À Montréal, comme tel, c'est 600 000. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire de la pauvreté, la lutte à la pauvreté, un projet de société, bien, il y a seulement 46 % des gens qui pensent que c'est une bonne idée. Mais vous savez, moi, ce que je dis toujours, c'est lorsqu'on fait du développement social, lorsqu'on s'assure de venir briser justement le cycle de la pauvreté et faire en sorte que cette dame-là qui vous a écrit par texto puisse terminer ses études à force de volonté et également en reconnaissance de l'appui qu'elle a eu, ben on fait du développement économique et du développement social. Alors, cette dame-là passe d'une bénéficiaire à une contributeur. Alors, elle est maintenant infirmière, elle peut s'occuper de sa famille dans la dignité et c'est beaucoup, beaucoup de ce qu'on est en mesure de faire avec l'argent que les gens nous donnent à Centraide. Donc, de faire en sorte qu'elle transige vers des organismes communautaires qui sont en mesure de faire ce travail-là, là, comme le Chaînon est un bon exemple.
Mais comme, par exemple, on parle souvent des personnes seules, monoparentales ou encore des personnes âgées, mais il y a des familles pour qui on est une famille de 4-5 personnes puis que les revenus ne sont pas là non plus. Là. On a besoin notamment de Centraide.
Alors, écoutez, on parle à Montréal, un salaire pour une famille de 4, là, un revenu familial, c'est-à-dire pour une famille de 4, c'est le seuil de la pauvreté, c'est 44 000 $. Alors, imaginez-vous qu'ils payent environ, je sais pas, 1 500 $ de logement par année, par mois, pardon. Alors là, il y a 18 000 $ naturellement après impôt qui part d'un coup. Je peux vous dire que les fins de mois arrivent assez rapidement.
Ben, je comprends.
Et M. Danneau parlait tantôt, Richard parlait tantôt du concept des travailleurs pauvres. C'est un drôle de concept, là. Je suis d'accord avec lui, là. Je suis pas certain que j'aime le terme, mais on voit de plus en plus de gens qui ont un emploi et qui sont pas en mesure de joindre les deux bouts et qui font appel à des services de dépannage alimentaire. Et nous, Centraide, on représente le plus grand investisseur social en sécurité alimentaire à Montréal avec des investissements de plus de 6 millions qui viennent en aide à ces gens-là, justement.
Justement, je fais référence à Jacques, tantôt l'auditeur qui est avec nous, qui disait il faut faire attention à qui on donne. Mais on le sait qu'avec un organisme comme le vôtre, que ça va à la bonne place.
Absolument. Puis, comme vous êtes une émission provinciale, je vais parler un peu de chiffres provinciaux, mais quand vous donnez à Centraide, au total au Québec, là, c'est 90 millions de dollars, OK? Et 90 millions de dollars, quand on compare, disons, au budget de la santé et des services sociaux de la province de Québec, on parle peut-être de 48 milliards. Alors, vous savez que 90 millions, ça fait pas un gros pli sur 48 milliards, mais ça fait en sorte qu'on a des organismes communautaires qui sont très près des gens. Et ça fait que les centraides du Québec sont les plus importants investisseurs sociaux communautaires, des gens qui font de la lutte à la pauvreté. Dans un secteur, c'est pas financé par l'État, la lutte à la pauvreté. Donc, on a besoin absolument de monsieur, madame, tout le monde, des entreprises des grandes fondations publiques et privées qui donnent un coup de main, qui viennent donner de non seulement de l'argent, mais de leur temps également dans le but de solutionner les différentes situations qu'on vit, desquelles on est témoin chaque jour.
Monsieur Pinard, on va s'arrêter un instant. On va aller au téléphone tout de suite avec Micheline qui est là. Bonsoir, Micheline.
Oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous, est-ce que vous êtes aussi généreuse envers les moins bien nantis cette année? Est-ce que vous pensez l'être ou?
Moi, c'est le contraire.
C'est le contraire. Okay.
Moi, je reçois moins que Francine.
Ah oui?
Je reçois 1445 par mois.
Puis quand vous avez payé votre loyer, Micheline, il ne va pas rester grand-chose, là?
Non. Fait que je suis obligée de demander. Là, j'ai demandé un panier de Noël à la Saint-Vincent-de-Paul.
Oui.
Ils m'ont dit d'aller le chercher. Mais moi, je suis non-voyante.
Okay.
Et j'ai travaillé pendant 18 heures.
Micheline, on va garder vos coordonnées, là. On va s'organiser. Inquiétez-vous pas. On va s'organiser pour que vous l'ayez, votre panier de Noël, là. Si, on ira vous le porter, quelqu'un de l'équipe, là. Il n'y a pas de problème, là, si c'est un problème pour avoir un panier, là.
OK, parce que là, j'ai appelé Jeunesse au soleil.
OK.
Il ne me rappelle pas non plus.
Bon. Vous êtes dans quel secteur, vous, Micheline?
À Montréal aussi.
OK. C'est bon, parce que je sais que mon invité, M. Pinard, vous écoute en ce moment. Là, il pense certainement à des organismes qui peuvent vous aider, là, je croirais, parce que si vous êtes non-voyante, je comprends que... Puis d'aller chercher un panier de Noël, c'est quelque chose qui est assez pesant aussi, là.
Ben c'est ça.
Bon, ben
Micheline... Quand t'as 4 planches dans une main, quand j'avais un chien guide, ça allait très bien.
Ben oui.
Parce que je pouvais aller travailler et tout ça, mais juste avec la canne, là, c'est pas évident.
Bon, ben Micheline, restez au bout du fil. Mon collègue va reprendre vos coordonnées, d'accord?
D'accord, merci.
Merci, au revoir. Monsieur Pinard, oui, c'est ça, quand on entend l'histoire de Micheline, je peux pas croire que c'est toujours comme ça, là, quand on appelle à quelque part et qu'on demande de l'aide.
Non, puis bien franchement, Mme Leboeuf, là, si vous pouvez me transmettre les coordonnées de Micheline, je vais m'en occuper personnellement.
Ah, OK.
M'assurer qu'elle passe un beau Noël. Vous savez, c'est Mme Donaldson tantôt parlait, puis c'est
ouais.
Deux ou trois interlocuteurs qui appellent. Plus on vieillit au Québec, plus la part importante de notre revenu va justement dans le logement.
Ben, c'est ça.
Et donc, ça crée des situations exactement comme on entend là, au téléphone là, au moment où on se parle. Et lorsqu'on regarde, mettons, justement, quand on parle de sécurité alimentaire, avant la pandémie, 60% des 85% des demandeurs d'aide en sécurité alimentaire sont locataires.
Mm-hmm.
Et alors qu'avant, c'était 60%. Fait qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Puis on parle d'environ, là, à Montréal, de 200 000 personnes qui vivent cette situation-là. Puis j'ai pas le chiffre devant moi, mais je suis à peu près convaincu qu'il y a une bonne proportion de personnes âgées dans ce chiffre-là.
Oui, non, c'est ça. Puis souvent, des personnes âgées qui se retrouvent un peu isolées, qui n'ont pas nécessairement toujours de la famille ou des enfants pour les prendre en charge, les aider.
Absolument. Puis, je vais vous dire un autre effet un peu pervers là, de la pandémie. L'an dernier, lorsque vous soumis il y a un an, là, on ne parlait pas de vaccin ni de faire de tests. Hein.
Mm-hmm.
On demandait aux personnes âgées de rester à la maison. Alors, souvent, les personnes âgées et les retraités constituent une bonne partie du bénévolat des organismes communautaires. Alors, ça fait en sorte que les organismes ont dû se réinventer pour offrir les services. Ça a créé beaucoup de pression sur les organisations au niveau de la fatigue des organismes. Mais les personnes âgées sont revenues environ à 80% dans leur rôle de bénévole, si vous voulez, dans leur rôle essentiel de bénévole.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que pendant cette année-là, elle voyait moins de personnes aussi. Fait qu'on parle vraiment de d'isolement. C'est vraiment pas facile. Et je voudrais en profiter peut-être pendant que je suis avec vous, là, puis j'ai la tribune, pour dire que des personnes comme Micheline puis des personnes comme Francine peuvent communiquer avec le 211.
Okay.
C'est un service d'accès à des organismes communautaires ou d'information pour des organismes communautaires qui vont être en mesure là, d'être pris en charge ou en tout cas d'être référés vers des services qui peuvent leur venir en aide.
Ben c'est une bonne idée, ça. Merci beaucoup, M. Pinard. Puis de quelle façon les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont envie de contribuer à Centraide, de quelle façon on peut vous aider?
Ben écoutez, ça serait super gentil. Merci beaucoup. Ça va bien, là. Votre thème était la générosité. Je dois vous mentionner que que les Québécois sont au rendez-vous. On n'a pas tous les chiffres, là, tous les résultats, mais vraiment, on sent la générosité des Québécois, cette fibre sociale là, de communautaire très, très importante. Je vous dirais que si les gens veulent me donner un coup de main, allez sur québec.centraide.ca ou naturellement, faites Google Centraide, vous allez me trouver. Là. Mais tous les dons comptent, tous les dons sont importants, puis ça nous permet d'aider des gens comme Michelin et Francine.
Un gros merci à vous de votre temps ce soir, M. Pinard.
Merci beaucoup à vous.
Merci, M. Claude Pinard. Il est président, directeur général de Centraide du Grand Montréal. On s'arrête un instant, 19h48, évidemment. Au retour, on vous jase. Pensez-vous être aussi généreux envers les moins bien nantis cette année? À Montréal, 514-790-9850. Ailleurs, au Québec, 1-866-790-9850. La question ce soir, pensez-vous être aussi généreux envers les moins bien nantis? Je vais poser la question à Jean-Paul qui est au bout du fil. Bonsoir, Jean-Paul.
Oui, bonsoir, ça va bien?
Ça va, vous?
Oui, écoutez, moi, dans le fond, c'est moi, j'ai 64 ans, bientôt 65 ans. Je suis prestataire d'aide sociale.
Okay.
J'ai 988 $ par mois, plus le régime de pension qui, du gouvernement du provincial, qui me donne 140 $ par mois. OK?
Oui.
Puis on paye des 700 puis des 800 $ par mois de loyer.
Oui.
Puis on pourrait arriver, c'est très heureux d'arriver. Là-dessus, on ne calcule pas l'électricité, on ne calcule pas du manger, on ne calcule rien. Fait qu'on n'arrive pas. Puis vu que, je ne sais pas si vous savez comment est-ce que ça fonctionne avec le régime de retraite. Si vous prenez votre pension, votre régime de retraite à 60 ans, c'est un montant.
Oui, puis si à 65 ans, c'est un autre, là?
C'est un autre montant.
Ouais.
Mais là, l'aide sociale nous donne l'autre à 60 ans.
OK.
Fait que là, je vais tomber à ma pension à 65 ans, mais j'ai pas de plein montant parce qu'ils me l'ont donné. Mais ils m'ont coupé mon chèque d'aide sociale pour me donner ça.
OK.
Fait que c'est un beau cadeau du gouvernement qu'ils nous font, dans le fond.
Non, je comprends. Puis quand vous dites que vous n'arrivez pas, est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous allez chercher de l'aide, justement, pour, par exemple, le temps des fêtes? Ou...
On essaye de temps en temps. Fait que c'est ce qui fait que c'est tellement dur à arriver. Puis tout augmente. Quand même, tu déménageras dans un quartier défavorisé. Un quartier défavorisé, aujourd'hui, tu ne paieras pas 500-600 $ pour un loyer.
Non, il n'y en a plus de ça.
Même
dans
un quartier défavorisé, tu vas payer 700 minimum pour un petit logement. Quand même, tu es dans un quartier défavorisé, les prix ne baissent pas.
Non, non, c'est
ça. Tout est cher. Le panier d'épicerie a augmenté, c'est incroyable. L'aide sociale n'augmente pas absolument sur rien.
Non, je sais que le gouvernement a annoncé des montants aujourd'hui là, pour 3,3 millions de personnes, là, mais c'est...
Mais madame, quand même, qui me donnerait un chèque de 200 $ pensez-vous que sur un an, ça rentre de quoi?
C'est sûr. C'est sûr.
On va changer peut-être sur un mois, mais après ça, on retombe à la même chose. Puis moi, je vais vous dire, comme quand on donne de l'argent à des organismes, il faut quand même faire attention où est-ce qu'on en donne. Parce que quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai travaillé pour une Saint-Vincent-de-Paul, puis j'ai passé la guignolée avec eux autres. Puis les messieurs qui étaient en charge de la Saint-Vincent-de-Paul, ils ne donneraient pas à quel endroit, puis c'est une grosse place. Il a lâché une job à la ville de Montréal pour aller prendre ça. Il y a une raison, madame.
Jean-Paul, merci de votre appel. Merci. On va aller avec Mike qui est là. Bonsoir, Mike.
Allô.
Bonsoir. Vous, est-ce que vous pensez être aussi généreux envers les moins bien nantis cette année?
Oui, j'aimerais vraiment beaucoup aider. Moi, quand il y a eu là, le début des bitcoins, là, j'ai investi. Puis là, je m'apprête genre à en encaisser plus de 100. Alors, dans le fond, moi, j'aimerais envoyer ce message, puis qu'ils puissent mettre l'extrait là sur le site. J'aimerais offrir à toutes les gens là qui veulent avoir peu importe quel montant, là, que ce soit 1000 $, 10 000 ou même 100 000, qui m'envoient un email. J'ai créé un email juste avant que je t'appelle.
OK. Donc, on va aller à un autre appel, je pense. Excusez-moi. Pendant que je vous parle, il y a quelqu'un qui m'écrit en disant « Nous sommes en pleine campagne d'entraide à mon emploi. Puis la personne donne à chaque mois. Puis là, elle aimerait trouver un endroit où faire du bénévolat avec ses enfants de 10, 12 ou 13 ans pour les conscientiser de la chance qu'ils ont. Avez-vous une idée pour moi? » Ben, je vous dirais directement, on a parlé avec Richard Dano, qui est directeur général chez Moisson Montréal. Il parlait de l'importance des bénévoles. Ça vous tente d'aller voir Moisson Laurentide, Moisson Lanaudière, par exemple. Ça pourrait faire une différence d'aller donner du temps. Puis vos ados, je pense que ce serait une bonne idée de voir comment ça se passe sur le terrain quand nous, on est un peu plus chanceux, disons. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Et on va se reprendre la semaine prochaine. Évidemment, nous sommes là, parlons-nous les soirs où il n'y a pas de hockey. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. Merci tout le monde. Bye-bye.